Ce qu'il faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
El pueblo unido jamás será vencido.
¡Vencemos a!
El pueblo unido jamás será vencido.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Wakadi est un acronyme qui veut dire « on a quelque chose à dire ». Et c'est le principe de cette émission sur Radio Clapas. On choisit un sujet d'actu et on sélectionne un ou plusieurs invités qui ont quelque chose à dire sur le sujet. Aujourd'hui, la vedette de notre émission, c'est l'abeille. Depuis la nuit des temps, butinant inlassablement de fleur en fleur, l'abeille assure une pollinisation irremplaçable qui contribue activement à développer et sauvegarder la biodiversité de notre planète, biodiversité essentielle à la survie de l'espèce humaine. Pourtant, à l'image d'un milieu naturel qui ne cesse de se dégrader, la préservation de cet insecte, véritable sentinelle de l'environnement, devient aujourd'hui préoccupante. L'abeille, sentinelle de l'environnement, c'est le thème de cette 41e édition Apimondia qui a eu lieu à Montpellier du 15 au 20 septembre 2009. Un mal mystérieux qui décime les abeilles, c'est le sujet qui a été au cœur des débats. Nos deux chroniqueurs pour cette émission, c'est Capucine et Boris qui vous emmènent au cœur de la ruche. Henri Clément, auteur de l'ouvrage « L'abeille, sentinelle de l'environnement », tente de répondre de manière novatrice aux nombreuses interrogations que chacun se pose sur l'univers fascinant des abeilles et leur devenir.
Alors moi je m'appelle Henri Clément, je suis président de l'Union nationale de l'apiculture française, je suis apiculteur dans les Cévennes et en l'occurrence je suis président de l'organisation de ce congrès mondial de l'apiculture Apimondia à Montpellier.
Alors on dit qu'une ruche produit entre 20 et 80 kilos de miel par an et le surplus de nectar est prélevé par l'apiculteur, sachant que 15 à 20 kilos de miel sont indispensables à la survie de la colonie pendant les longues périodes d'hiver. Alors on dit souvent que la nature est bien faite, alors comment vous expliquez ce surplus de production de miel par les abeilles ?
C'est-à-dire qu'en fait, premièrement, je reprends un peu vos chiffres, parce qu'en Lozère, où nous avons des ruches sédentaires, et tous les collègues, si vous leur dites qu'ils font 20 kg de miel par an, ils seraient ravis de faire ces productions. On est plutôt entre 10 et 12 kg, voire moins parfois, comme cette année en période de sécheresse. C'est-à-dire que l'abeille, c'est un insecte qui a 80 millions d'années, qui était là bien avant l'homme, donc qui a survécu à tous les bouleversements climatiques et qui vit en colonie. Et donc l'abeille profite de tout ce qu'elle a dans son environnement pour emmagasiner des réserves en cas de période beaucoup plus difficile. Et donc, nous, en tant qu'apiculteurs, on ne prélève que le surplus. C'est-à-dire que les abeilles, plus elles peuvent travailler, plus elles emmagasinent de miel. Et elles n'ont pas besoin de toute cette grande quantité de miel pour vivre. Donc, on leur prend le supplément et on le récolte et on le conditionne et on le vend comme miel.
Alors l'abeille n'a pas besoin de l'homme pour vivre, elle est indépendante pour la pollinisation, et puis l'hiver elle ne sort pas. Alors quel est le rôle de l'apiculteur pendant la saison de mars à septembre ?
Alors déjà pendant très longtemps, l'abeille s'est débrouillée toute seule. Et encore aujourd'hui, hormis le traitement du varroa, les abeilles pourraient tout à fait se développer toutes seules. L'apiculture, c'est une activité qui est très cyclique, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du printemps, et ici en Languedoc-Roussillon, on est quand même très... le printemps est très tôt, février-mars, les abeilles redémarrent leur cycle, c'est-à-dire que la reine reprend la ponte, la colonie regrossit, reprend de l'ampleur, et il faut savoir qu'une reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour au printemps, en pleine période d'effervescence. Et donc les apiculteurs accompagnent ce développement en ajoutant des cadres, en faisant des essaims. Ensuite, ils mettent les hausses dans lesquelles elles stockent le surplus du nectar, comme vous le disiez très justement tout à l'heure. Donc on récolte des miels, notamment sur le romarin de bonheur en Languedoc-Roussillon. Et ensuite, tout le long de la saison, on fait l'accompagnement du développement de la colonie et des récoltes successives. Et on a la chance en Languedoc-Roussillon de pouvoir commencer les récoltes très tôt avec le romarin et de les finir très tard dans certaines zones avec le miel d'arbousier, qui est l'arbousier qui fleurit en fin octobre, novembre. Donc on arrive à récolter même courant novembre le miel d'arbousier quand la saison est bonne, et c'est pas le cas cette année.
Dans votre livre intitulé « L'abeille sentinelle de l'environnement », vous parlez d'un service de pollinisation gratuit par les colonies d'abeilles domestiques indispensable au maintien de la biodiversité. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce processus ?
C'est-à-dire que moi, je me rends compte, ça fait 15 ans que je m'occupe de l'Union nationale de l'apiculture, soit en tant que membre du bureau ou après président. On se rend bien compte que la production de miel est importante, des produits de la ruche, que ce soit pollen, gelée royale, propolis, etc. Et le miel, c'est un produit fantastique. On ne retire rien, on n'ajoute rien, c'est un produit naturel, avec plein de qualités pour la santé, etc. Et tout. Mais au-delà de cela, effectivement, le rôle prépondérant de l'abeille, ce n'est plus le miel, c'est la pollinisation. C'est-à-dire qu'en fait, selon une étude qui est sortie cette année au printemps de l'INRA et du CNRS, 35% de nos ressources alimentaires sur la planète proviennent des insectes, à 80% de l'abeille. 35%, c'est-à-dire que quand vous consommez 3 cuillerées pour vous alimenter, il y en a une que vous devez aux abeilles, quasiment. Et 65% de notre diversité alimentaire, c'est-à-dire que si nous avons cette grande diversité à portée demain, que ce soit les fruits, les légumes, les huiles, même les carottes, les oignons, etc., nous le devons aux abeilles. Et si demain, les pollinisateurs, parce qu'on parle toujours des abeilles domestiques, celles dont les apiculteurs s'occupent, mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'abeilles sauvages, en France il y en a à peu près 1000 sortes, et d'insectes pollinisateurs sauvages, qui eux aussi connaissent un déclin énorme, et là c'est pas un problème de virus, c'est pas un problème de varroa, c'est pas un problème de mauvaises pratiques apicoles, ni quoi que ce soit, c'est un problème d'environnement. Si ces pollinisateurs disparaissent, cela veut dire que les générations futures vont connaître beaucoup moins de production, beaucoup moins de diversité, et si vraiment la situation s'aggrave véritablement, on va connaître un monde en noir et blanc, je dirais. C'est-à-dire que vous aurez que du blé et du riz. Et ça, c'est dramatique. Et on le voit par exemple en Californie, où c'est la plus grande zone de production d'amandes au monde, et par manque d'abeilles, la production a chuté de 30%. Et la location d'une ruche qui était l'ordre de $50 dans les années 2000 est passée à $150 en 2006 ou 2008, sans que les amandiculteurs parviennent à trouver suffisamment d'abeilles pour polliniser les fleurs. Moi, je me rappelle, j'étais en Australie il y a 2 ans, changement d'hémisphère, donc ils étaient en train de produire des essaims, et ils faisaient des essaims pour envoyer en Californie pour essayer de compenser ce manque d'abeilles. C'est le cas aussi en Caroline du Sud, où par manque d'abeilles, la production de concombres, qui est pourtant très importante pour les Américains, qui sont grands consommateurs, a chuté de 50%. Et vous avez même le cas de la Chine, la province du Sichuan, qui, vous allez sur internet, vous tapez sur Google le silence des abeilles, et vous verrez que dans cette province, les abeilles ont complètement disparu, et on est obligé de polliniser les arbres à la main, ce qui est fastidieux et qui est quelque part complètement surréaliste. C'est-à-dire qu'une seule ruche fait le travail de 50 ou 100 bonhommes, nettement mieux, et en plus de manière plus efficace. Voilà. Donc c'est très très important, et d'ailleurs le chiffre d'affaires induit par les abeilles au niveau mondial, hormis les semences, c'est-à-dire, je ne parle pas des semences de carottes, d'oignons, etc. Il est estimé à 153 milliards d'euros, et rien que pour la France, 3 milliards d'euros. Donc c'est très 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 important, et l'abeille est d'une certaine façon une clé de voûte de notre environnement pour la production agricole, mais également pour la biodiversité végétale. C'est-à-dire qu'il y a énormément de plantes sauvages qui ne se reproduisent que grâce aux abeilles. Il y a une étude américaine qui avait été faite quelques années qui indiquait que c'était 20 000 plantes en Europe qui étaient sauvegardées par les abeilles. Donc les abeilles sont essentielles, et si on ne parvient pas à enrayer ce déclin, franchement on aura du souci à se faire.
Alors quel constat observe-t-on en France par rapport au reste du monde face à ce phénomène qu'on appelle l'effondrement des colonies ?
Alors, en France, si vous préférez, on a été confronté aux mortalités d'abeilles après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est général au niveau mondial. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture a évolué. Et pour nourrir la population, on a fait évoluer cette agriculture. C'est-à-dire qu'on a eu une agriculture beaucoup plus intensive, on a supprimé les petites parcelles avec les haies, etc., les bocages, etc. On a fait de la monoculture, on a utilisé des engrais, des nitrates, etc. On a utilisé des pesticides, et ces pesticides ont engendré de fortes mortalités d'abeilles dans les années 70, mais c'était des mortalités qui étaient flagrantes, c'est-à-dire que quand les produits étaient employés, vous aviez des kilos d'abeilles devant les ruches, 1-2 kilos d'abeilles mortes devant les ruches. Et donc avec les pouvoirs publics, on a entamé des discussions, et la réglementation a évolué. En 1974, est sorti un arrêté qui interdisait les traitements en période de floraison. Ça a permis à l'apiculture française de connaître un véritable essor. D'ailleurs, beaucoup d'apiculteurs se sont installés à cette époque-là. Et de 1974 à 1995, la France était leader en apiculture au niveau européen. Et puis en 1995, on a vu apparaître de nouveaux pesticides beaucoup plus puissants, beaucoup plus performants, qu'on appelle neurotoxiques systémiques, Gaucho, Régent, Cruiser, etc., qui enrobent les graines, parce qu'en plus l'image de l'agriculteur était parfaitement écornée avec les pulvérisations en hélicoptère, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec les tracteurs, les grandes rampes, etc. Ça donnait une mauvaise image des agriculteurs. Et donc on a remplacé ces traitements par des enrobages de semences, c'est-à-dire que les graines sont enrobées d'une molécule hyper puissante qui protège le système racinaire et puis rentre par la sève dans la plante et protège toute la plante au niveau de son développement. Et en fait, par exemple, pour le tournesol, le gaucho, c'était 70 grammes à l'hectare. 70 grammes de matière active suffisait à protéger un hectare. Ça ne se fait pas sans qu'il y ait des dégâts collatéraux. Et en plus, l'abeille, le génome de l'abeille a été effectué et on s'est aperçu que l'abeille, qui n'avait jamais été exposée aux pesticides jusqu'à une période récente, effectivement, n'a pas développé des gènes de désintoxication. Donc, ce qui veut dire qu'elle est particulièrement fragile aux produits phytosanitaires et elle n'arrive pas à s'en protéger.
Alors, donc, l'utilisation massive de produits chimiques baisse des ressources alimentaires des abeilles dues à la monoculture. À cela s'ajoutent aussi les conditions et les changements climatiques. Quels problèmes liés à l'apiculture sont finalement à prévoir ?
En fait, si vous préférez, quand on regarde les causes de ces surmortalités, il n'y a pas que les pesticides. Il y a deux causes prépondérantes qui sont effectivement les pesticides, mais également les maladies. Et souvent, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'abeilles sont intoxiquées à bas bruit par des intoxications rémanentes, et donc elles perdent leur défense immunitaire et elles développent une sensibilité aux maladies. Donc il faut que dans les années à venir, on ait une homologation des produits phytosanitaires très rigoureuse, ce qui n'est pas encore le cas, pour éviter ce type de problème. Il faut qu'on ait des études en matière de traitement contre les maladies, contre le varroa, qui est un acarien qui existe en France depuis les années 80, qui est jugulé par les apiculteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, un apiculteur qui perd ses ruches à cause du varroa, c'est de sa faute. Il faut le reconnaître. Il y a des moyens de traitement qui sont quand même qui permettent de lutter contre cet acarien. Donc, il faut lutter contre le varroa avec de nouveaux produits parce qu'il y a une accoutumance des molécules, une résistance de l'acarien. Il y a également le frelon d'Asie qui est en train d'arriver dans notre région. Il est arrivé dans la région de Bordeaux il y a 4-5 ans. En quelques années, il a conquis le tiers de notre territoire sans que les pouvoirs publics s'en alertent véritablement et mettent en place une stratégie nationale. Bon, pour l'instant, il y a quelques nids en Languedoc-Roussillon, c'est pas dramatique, mais ça va être très rapide et on va avoir de gros problèmes dans les années à venir. Et puis le bouleversement climatique, effectivement. L'abeille a 80 millions d'années, elle a survécu à tous les bouleversements. Simplement, c'est que pour la production de miel, ça a une incidence. Et par exemple, on voit cette année où la saison n'a pas été favorable, la production du miel en Languedoc-Roussillon est amputée de 50%. C'est pas les produits phytosanitaires, c'est pas un problème sanitaire ni rien, c'est un problème de conditions climatiques. On a par exemple en ce moment l'inule visqueuse, qui est une plante invasive qui est en train de coloniser de Perpignan jusqu'ici, et depuis 3 semaines elle est prête à fleurir, mais comme il a pas plu, elle fleurit pas, donc les abeilles y vont pas. Et puis quand on parlait tout à l'heure aussi des ressources alimentaires, c'est vrai que la monoculture de blé par exemple n'est pas favorable aux abeilles. Il y a 20 ans dans les blés, il y avait des bleuets, il y avait des coquelicots, elles y prenaient du pollen, du nectar, etc. C'était bien. Maintenant, s'il n'y a que du blé, ben, c'est une catastrophe.
Alors créer son rucher ou une ruche au jardin sont parmi les ouvrages que vous avez publiés. Pourquoi cette démarche de vouloir développer l'apiculture amateur ?
Parce que la France a une grande chance, c'est d'avoir une apiculture professionnelle dont je fais partie, on est 2000 professionnels, des pluriactifs, des gens qui ont 60-80 ruches, qui peuvent avoir une autre activité, ils peuvent être ou agriculteurs, ou facteurs, ou professeurs, ou journalistes, et une apiculture amateur, des gens qui ont 5-10 ruches, comme vous pourriez avoir. Et la globalité fait qu'on a un réseau de ruches sur l'ensemble du territoire qui est très très intéressante, qui permet la pollinisation et qui permet de faire de vrais relais vis-à-vis des consommateurs sur le miel, les produits de la ruche. Personne ne parle mieux des miels et des produits de la ruche que l'apiculteur qui défend son miel, qui parle de son miel. C'est très important. Et on s'aperçoit que depuis de nombreuses années, il y a une chute du nombre d'apiculteurs issus, je dirais, d'une apiculture traditionnelle. Moi, je suis des Cévennes, dans toutes les familles, quasiment dans toutes les fermes en France, il y avait des gens qui avaient des ruches, 5-10 ruches. Et puis, avec l'évolution de la société, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de moins en moins d'agriculteurs, 2-3 millions, on est tombé à 500 000. Le fait que la désertification des campagnes, etc., le vieillissement des populations des gens qui sont dans les campagnes, tout cela a fait que le nombre d'apiculteurs a fortement chuté. En 1995, il y avait 85 000 apiculteurs. En 2005, il n'y en avait plus que 70 000. En 10 ans, on a perdu 15 000 apiculteurs. C'est dû à ce vieillissement, à cette évolution. Il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre d'apiculteurs qui avaient 5 à 10 ruches et qui ont arrêté parce qu'ils se les ont fait fusiller par des pesticides. Une année, ils ont reconstitué, ils se les ont refaites fusiller et au bout d'un moment, ils ont arrêté. Ça, c'est quand même inquiétant. Mais paradoxalement, depuis qu'on a fait notre programme Abeilles Sentinelles à l'Environnement, puisqu'à l'UNAF, on a développé ce programme, notamment avec la région Languedoc-Roussillon qui a été le premier partenaire, et un des derniers à rentrer, et pourtant il y en a beaucoup qui vont arriver, c'est la ville de Montpellier qui est rentrée avec nous. On a 5 régions, 4 conseils généraux, donc les Pyrénées-Orientales, l'Ain, le Pas-de-Calais, le Finistère, de nombreuses sociétés, de belles sociétés comme L'Oréal, comme Botanique, le restaurateur Michel Brasse, etc. Grâce à cette opération de sensibilisation autour de l'abeille, nous avons, grâce aussi aux journalistes qui ont bien relayé l'information, nous avons de plus en plus d'urbains qui s'intéressent à l'abeille. Et aujourd'hui, tous les ruchers écoles sont remplis de gens qui veulent s'initier à l'apiculture. Ça, c'est nouveau, c'est une nouvelle apiculture et ça fait plaisir. Et c'est vrai que l'apiculture a une chance inouïe, c'est que quand vous avez une ou deux ou trois ruches, vous n'êtes pas comme avec un chat ou un poisson rouge ou un canard ou un mouton, esclave quelque part de cet animal. C'est-à-dire que les abeilles, elles se nourrissent toutes seules, elles se nettoient toutes seules, elles n'ont pas besoin de vous pour partir le matin, elles n'ont pas besoin de vous pour rentrer à la ruche, elles se débrouillent. Il y a de belles opérations à faire, des opérations à réaliser régulièrement, mais ce n'est pas un travail qui rend esclave. Et donc vous pouvez habiter à Paris, moi j'ai un ami qui habite à Paris, Jean Lacube, et il a ses ruches dans l'Aude. Donc il a ses ruches, il fait les opérations qu'il faut, il récolte, il descend dans l'Aude régulièrement au printemps, mais en hiver du mois d'octobre jusqu'au mois de février, il n'y a rien à faire. Donc et même en saison, on peut tout à fait produire du miel sans être là de quelques semaines. Donc ça c'est un point très positif qui doit être rassurant et je pense que tous ensemble on va arriver quand même à sauvegarder l'abeille parce qu'on en a tous besoin.
Et il y a aussi des ruches en ville, on s'aperçoit que les abeilles se portent très bien au cœur des grandes métropoles. Alors qu'en est-il du miel récolté ?
Ben oui, c'est paradoxal, c'est même assez étonnant, parce que moi je suis, comme je vous l'ai dit, les Cévennes, donc quand on fait des récoltes de 10-12 kilos par ruche, on est content, en ruche sédentaire, je parle, et j'ai un ami qui est de Montpellier, qui a une entreprise à Paris, Anatome, qui a installé une ruche dans son bureau à côté de la Bastille, il y a 2 ans il a fait 100 kilos. Et les plus belles récoltes de France, et c'est pas des blagues, elles se font à Paris, au cœur de Paris. Ça veut dire que c'est paradoxal et que c'est inquiétant. Parce que si l'abeille supporte très bien la pollution urbaine que personne ne peut contester, elle supporte beaucoup moins la pollution des produits phytosanitaires en zone de grande culture. Et ça, c'est quand même un point très très important. C'est-à-dire que quand vous êtes à Paris, vous n'avez pas de taux de mortalité, parce que le taux de mortalité, généralement, c'est entre 5 et 8%. C'est un taux naturel, si vous préférez, une reine qui meurt, bon... En zone de grande culture, on est monté à 35-40%. À Paris, ça se maintient à moins de 5%. Dès que vous êtes autour de Paris, déjà, ça commence à fléchir un peu, mais ça se maintient. Et dès que vous éloignez en Ile-de-France, que vous allez dans l'Essonne, de Val-de-Marne, etc., où il y a du colza, du tournesol et du maïs, vous retrouvez des taux de mortalité très importants, des taux de récolte très faibles. Alors, ce qui veut dire que l'avenir de l'apiculture, il n'est pas en ville. On va pas mettre toutes nos ruches à Paris, ou à Montpellier, ou à Toulouse, etc. L'avenir de l'apiculture, il est sur l'ensemble du territoire. Par contre, il est grand temps que les pouvoirs publics, l'État, prennent des mesures en matière d'homologation de produits, de traitement, etc., de soutien à la filière, pour que l'abeille retrouve sa sérénité partout sur notre territoire, car c'est là qu'on en a besoin. Voilà. Donc c'est un signal d'alarme qu'on tire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que les collectivités territoriales qui installent des ruches connaissent mieux l'abeille, parce que beaucoup de gens aiment les abeilles, mais ignorent beaucoup de choses des abeilles et ne savent pas ce qu'est vraiment le travail de l'apiculteur. Et on s'aperçoit que quand on installe des ruches sur un conseil régional, dans une entreprise, dans une mairie, beaucoup de gens qui travaillent dans la collectivité disent « mais finalement, ces abeilles, c'est passionnant, ah ben oui, eh ben c'est faisable, etc. » Et ça se termine souvent par l'initiation de plusieurs personnes à l'apiculture et beaucoup de gens qui se mettent aux abeilles. Donc, tout un chacun peut avoir des ruches, produire son propre miel, et c'est quand même un vrai bonheur de faire goûter son miel à ses enfants, à ses amis, à ses voisins, en leur disant « voilà, c'est mon miel ». Juste une petite anecdote. Moi, j'étais au Liban, j'étais en Syrie. Au Liban, j'ai rencontré des apiculteurs du Koweït. Et le Koweït, c'est quand même pas un pays qui est favorable à l'apiculture. Mais au Koweït, par exemple, dans les grandes familles koweïties, qui sont bourrées de pognon, le luxe, c'est d'avoir 4 ou 5 ruches ou 10 ruches qu'il faut entretenir par des techniciens pour produire du miel. Et puis dans les grandes cérémonies, c'est un peu comme le caviar, on sort un cadre de miel, on le découpe et tout le monde déguste le miel et le partage.
L'Union nationale des apiculteurs de l'apiculture française organise cette année le congrès Apimondia à Montpellier. Qu'espérez-vous suite à ce colloque où l'ouverture au grand public tient une place très importante ?
Alors c'était déjà une innovation, c'est-à-dire que jusqu'à Montpellier, les congrès Apimondia rassemblaient les apiculteurs, les scientifiques, mais ça restait, je dirais, quelque part à un circuit fermé. C'est-à-dire on était entre scientifiques, apiculteurs qui se connaissent, qui se fréquentent, parce que c'est un petit monde, même s'il y en a partout dans le monde. Et nous nous sommes dit, notamment avec notre expérience du programme AB Sentinelle d'environnement, que c'était une opportunité sans nom de faire une passerelle vis-à-vis du grand public. Et nous avons eu raison. Ça nous a coûté beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Mais ça nous a permis de faire venir les Montpelliérains, les gens de la région. Moi, j'ai des gens de la Lozère qui sont descendus du Gard, de l'Aveyron, etc. Pas apiculteurs, mais qui avaient envie de découvrir ce monde des abeilles. Et donc, c'était notre rôle. Et notre rôle, c'est de faire prendre conscience du rôle de l'abeille en tant que producteur de miel, pollinisateur, etc. Faire prendre conscience que finalement, malgré ses 80 millions d'années, c'est un insecte qui est devenu fragile, qui est fragilisé par l'homme, et que l'homme a des devoirs vis-à-vis de l'abeille, c'est-à-dire de lui permettre de rester vivante et de continuer à polliniser pour l'ensemble de la population.
Merci.
Merci à vous.
L'air en a, l'apiculteur se meurt. Il a eu son heure. Il a fait son beurre,
apiculteur.
L'air en air, l'apiculteur effleure la fin du labeur.
Apiculteur.
Dans une autre vie, les marguerites, ses feuilles tout ralenties. Personne n'est vainqueur, les proies des prédateurs savourent le nectar d'une pomme d'appui. Pas d'humeur à renverser des pleurs. Pierre sur les ouvrières, le jour en tailleur, le soir en épierre. Quand la mort vous susurre, les serments veloutés, que rien n'est moins sûr, n'aura plus d'importance ni la chaleur ni les piquets.
Quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
L'Union nationale de l'apiculture française, organisatrice du congrès scientifique et technique Apimondia 2009, crée cette année un événement festif et pédagogique. Nous avons suivi une classe de CM2 de l'école primaire Baruch Spinoza à La Martelle pendant son parcours découvert.
On est allé c'est des animateurs de l'écolothèque et c'est sur le Languedoc-Roussillon. Et on devait reconstituer une fleur et après
dessiné des alvéoles. On a mis des espèces de mots pour dire comment ça s'appelait et après on a remis les animaux dessus et voilà.
Et aussi on a un peu appris le sexe de la fleur qui pouvait se reproduire quand l'abeille a butiné, qu'il y avait du nectar qui venait sur l'abeille et quand après l'abeille elle allait sur une autre fleur, et ben ça faisait reproduire les fleurs.
le pollen il tombe sur l'abeille et puis après l'abeille elle vole et ça fait tomber le nectar par terre.
On est aussi allé voir un spectacle concert. Il était pas super.
C'était un peu pour les plus petits, maternelle, CP. C'était une abeille qui arrivait dans une classe et elle disait aux enfants, on va faire l'école buissonnière. Et donc après, ils partaient dans des chemins, après ils chantaient un peu, tout ça.
Dans un pays de tous les temps, la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille portait le nom de Maya. Petite, oui, mais est-ce qu'il y a de Maya?
On est allé faire de la dégustation de miel, on a vu à quoi ressemblait une ruche. Et un monsieur nous a expliqué qu'il plaçait des ruches à certains endroits pour avoir du miel de certaines fleurs.
Vous avez aimé le miel d'orange ?
Moi j'aime bien parce qu'il est un peu râpeux.
Moi je l'ai bien aimé parce qu'il est très fort en goût.
Ben, moi je préfère le miel de tournesol, il était super sucré.
Il y a le miel de lavande, il y avait le miel de ronce, le miel de melon,
de tournesol,
d'acacia, de lavande.
Et attends, t'en as oublié, le miel de rhododendron.
Rhododendron.
Aussi, on a goûté des bonbons au miel, mais ils étaient trop forts.
Il y avait qu'un qui était vachement sucré, enfin très doux, ouais. Et l'autre qui avait un petit goût de menthe, n'allait pas avec le miel. Et il y en avait un autre qui avait un petit peu un goût de terre, enfin un bizarre de goût.
Est-ce que vous avez goûté des bonbons à la propolis ?
Oui, moi j'ai déjà goûté. Ben, c'est pour le mal de gorge aussi. Et ça avait un goût un peu bizarre, mais c'était bon quand même.
Pourquoi les abeilles disparaissent ? Pourquoi ce sujet est-il au cœur de tant de polémiques depuis une vingtaine d'années ? Durant 2 ans, Vincent Tardieu a sillonné la France et les États-Unis, rencontré des dizaines de chercheurs et d'apiculteurs, compté près de 200 publications scientifiques. Journaliste scientifique spécialisé en écologie, Vincent Tardieu présente dans son ouvrage intitulé « L'étrange silence des abeilles » les résultats de son enquête sur un déclin inquiétant. S'il a choisi ce titre, c'est pour 2 raisons. D'une part, il évoque un silence dramatique observé dans les ruches lors de la disparition des colonies. Et d'autre part, ce livre fait écho au livre de la biologiste Rachel Carson, intitulé « Le printemps silencieux ». Publié dans les années 70, dans un silence assourdissant des médias et des pouvoirs publics. Un silence d'autant plus paradoxal qu'elle y faisait le premier constat de l'effet négatif des pesticides sur les colonies d'abeilles.
Alors on parle souvent de cette phrase, là, si les abeilles disparaissent, l'homme risque de disparaître aussi de feu, Albert Einstein. Donc alors, faut en penser quoi ? Que c'est une facétie de l'homme à la langue tirée ou qu'est-ce qu'on doit en penser de cette phrase ?
Non, mais c'est apocryphe, c'est-à-dire que c'est doublement faux. Ce n'est pas d'Einstein. Einstein était peut-être sans doute un très brillant physicien, mais certainement pas un biologiste et un écologiste. Et il n'a jamais écrit ça. Hein. Moi, j'ai fait une petite enquête. Bon, il y a un site de rumeurs sur lequel je me suis appuyé et puis je suis allé vérifier aux archives d'Einstein à Jérusalem. Et en fait, on me l'a confirmé qu'Einstein n'a jamais écrit ça. Et en plus, bon, on le prête plutôt à un syndicaliste, pour la petite histoire, hein, français, qui a se dit que c'était pas mal. Et puis, il a complaisamment prêté au grand homme et qu'un journaliste dans la salle a repris la chose. Et puis, c'est parti comme une traînée de poudre, vous voyez, comme c'est du sérieux. Mais le vrai problème, en fait, c'est surtout que c'est faux. Hein. C'est que l'idée de se dire que sans abeilles, l'humanité disparaîtra dans 4 ans ou dans quelques années après leur disparition est doublement faux. La première, parce que les abeilles ne sont pas prêtes de mourir. De façon générale, on va y revenir. Et la deuxième erreur dans cette idée-là, c'est qu'elles polliniseraient l'essentiel de notre alimentation, ce qui n'est pas le cas. Puisqu'on estime, après étude, notamment une étude qui est faite en partie à Montpellier et en partie à l'INRA, hein, dans deux laboratoires, que si les différentes espèces d'abeilles, on va y revenir tout à l'heure, pollinisent à peu près 75% des plantes cultivées, en réalité, quand on les rapporte à ce que nous consommons, ça ne fait plus que entre guillemets, 35%. Alors vous me direz, 35%, c'est pas mal. Mais ce n'est que 35%, c'est-à-dire l'ensemble des céréales, par exemple, qui n'ont pas besoin de pollinisateurs, constituent l'essentiel, en réalité, de l'alimentation humaine. Donc, si vous imaginiez demain qu'absolument toutes les abeilles disparaissaient, parce qu'on est très loin du compte, on pourrait continuer à boulotter. Alors, j'ai quand même l'habitude de dire, c'est comme si vous passiez en fait de la couleur au noir et blanc, hein, c'est-à-dire que vous auriez toujours une image, mais elle serait d'une tristesse absolument terrible, quoi. Et non seulement d'une tristesse, parce qu'en fait, c'est surtout les fruits et légumes, les aromates qui disparaîtraient, mais aussi, on perdrait des qualités nutritionnelles, on perdrait des vitamines. Et quand vous imaginez la fameuse phrase, enfin la fameuse précepte plutôt de l'OMS qu'il faut consommer 4 fruits et légumes par jour, ou 4 ou 5, et on en est déjà loin du compte, vous imaginez bien que là, il y aurait vraiment une incidence en douce sur la santé.
Déclin ou pas déclin des abeilles ?
Plutôt déclin, oui. Plutôt déclin. Alors, la difficulté, si vous voulez, c'était la première difficulté finalement à laquelle j'ai été confronté dans l'enquête, c'est que je me suis aperçu que mes petits camarades dans les médias et puis même dans le discours scientifique public, hein, on faisait un genre d'amalgame entre une abeille et puis toutes les autres. Donc, en général, on focalise sur une seule espèce, qui est Apis mellifera, qui est l'abeille mellifère d'élevage. Mais en réalité, rien qu'en France, on est sur 900 apoïdes. Les apoïdes, c'est les abeilles, les bourdons et quelques guêpes. Hein. Donc on est à peu près à 900 000 selon les auteurs, rien qu'en France. Et on estime que dans le monde, on est à autour de 20 000 espèces. Donc c'est vous montrer que quand on parle du déclin des abeilles, en fait on focalise en général sur une espèce pour dire que toutes les espèces disparaissent. Mais on va revenir sur les Apis mellifera, l'abeille d'élevage. Avant, je vais simplement vous indiquer que les quelques données qu'on a sur les espèces sauvages, très nombreuses, vont dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens du déclin. En particulier, il y a une étude qui a été conduite en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, qui montre qu'effectivement, c'est une collection de données sur un siècle, donc elle est vraiment solide et intéressante. Et elle montre que non seulement il y a un déclin des plantes à fleurs visitées par les apoïdes, les fameux groupes des abeilles, mais également des apoïdes eux-mêmes. Et en fait, les premiers qui boivent la tasse, ça ne vous étonnera pas, c'est les abeilles spécialisées, parce que dès qu'on va bouleverser un milieu naturel, on va avoir en même temps des espèces qui étaient sans doute reliées à certaines espèces qui pouvaient y pousser, et qui, ces espèces disparaissant, c'est leur garde-manger qui disparaît, c'est leurs habitats qui disparaît, et celles-ci, elles vont vraiment disparaître. Alors que toutes les autres espèces d'abeilles, c'est quand même une grande majorité des apoïdes, elles sont plutôt généralistes. C'est-à-dire que s'il y a une plante qu'elles visitaient qui disparaît, elles vont aller se reporter sur une prochaine. Bon, voilà, ça c'est le schéma, on va vous dire, très général. C'est simplement pour vous dire que oui, il y a un déclin global, bon, qui est évalué. Il n'y a pas de chiffres que je peux vous citer, parce que les données sur les espèces sauvages sont trop faibles. Mais les tendances, voilà, nous disent qu'il y a quand même un déclin. Mais en même temps, par exemple, il y a un programme d'écologie et d'observation et de suivi des apoïdes qui a été fait en Europe, qui est le programme Alarme, qui a été fait sur 5 ans et qui nous dit une chose qui est un peu paradoxale et qui est quand même intéressante, c'est que Les perturbations des habitats naturels depuis les années 60, en fait, ont plutôt produit de la biodiversité, notamment chez les apoïdes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous ouvrez un milieu type forêt ou même des milieux qui étaient assez fermés, on a créé une multitude de petits habitats. On a permis à des tas de plantes, en fait, à fleurs, de pousser dans des habitats plus ouverts, plus dirigés vers le soleil, donc qui pouvaient bénéficier de la couverture du soleil. Et à ce moment-là, on a créé de nouvelles ressources alimentaires, voyez. Le problème, c'est comment je relie cette fameuse donnée du déclin généralisé de cette multiplication d'habitats et de ressources qui est plutôt bénéfique. Donc, est-ce que ce n'est pas contradictoire, vous pourriez vous demander. Eh bien, en fait, l'élément de la contradiction, il se résout par, je dirais, une échelle de temps et une échelle d'espace. C'est-à-dire que les perturbations, de façon générale et schématique, sont plutôt bénéfiques, en fait, jusqu'à un certain moment. Si ça va trop vite, et si c'est trop important, ces perturbations dans les milieux naturels, alors là, j'ai de vrais effondrements et j'ai de vrais problèmes. Et c'est exactement ce qui se passe. Depuis les années 60, dans les pays dont on vient de parler, la Grande-Bretagne, la France ou par exemple l'Allemagne, on arrive à 75-60%, 50% du paysage qui devient paysage rural. C'est donc extrêmement brutal, vous imaginez. Et puis, dans certaines régions, je pense en France, la Beauce, la Champagne-Ardenne, on se retrouve avec des monocultures qui sont des véritables déserts biologiques, hein. Donc là, oui, j'ai vraiment un souci à me faire pour les pollinisateurs sauvages.
Du coup, c'est un peu le problème des mammouths, quoi. Des mammouths qui ont du mal à s'adapter parce qu'il n'y a pas assez de temps pour s'adapter.
Elles ont pas le temps de survivre, vous avez parfaitement raison. C'est ce que je raconte un peu dans le livre. Le problème, c'est vraiment un problème de pas de temps. C'est-à-dire que pas de temps et puis espace, hein. C'est-à-dire que c'est à la fois trop rapide, les bouleversements, et sur une trop grande échelle spatiale, ce qui fait que là où il y a une certaine plasticité écologique de tous ces groupes d'abeilles, eh bien, elles n'ont plus les moyens, les réserves génétiques, en quelque sorte, pour répondre à cette nouvelle situation. Et on pourrait bien avoir des surprises égales, comparables avec les changements climatiques. Pour l'instant, sur les grands bouleversements climatiques, on a assez peu de données sur l'impact pour les pollinisateurs. Il n'y a rien de très évident. Mais les quelques petites données, par exemple, qu'on a sur des cirfes, qui sont des mini-mouches qui pollinisent également, nous disent qu'on a des soucis à se faire. Voilà.
Et alors, ce déclin, est-ce que c'est un peu comme pour les énergies renouvelables, c'est que la solution, c'est qu'il n'y a pas une solution? Est-ce que la cause, c'est qu'il n'y a pas une cause, mais des causes?
Oui, incontestablement. Si je reviens à l'espèce qui intéresse plus particulièrement la profession, évidemment, qui est l'espèce d'élevage, Apis mellifera, alors, où on voit un déclin là aussi, bien que je dis dans le livre, bon, si on s'appuie uniquement sur cette espèce pour nous dire s'il y a déclin ou pas, ben, en fait, l'apiculteur, il casse un peu le thermomètre, hein, parce que s'il remonte son cheptel en sortant de l'hiver, ou quand il a 30% de pertes dans ses colonies, ben, en fin d'année, vous ne verrez pas qu'il y a eu déclin. Donc, si vous voulez, c'est très très ambigu, les chiffres dans cette filière d'élevage. Donc, c'est plus sur plusieurs années qu'on peut avoir une tendance. Et sur plusieurs années, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'apiculture? Deux choses. La première chose, c'est que quand même, depuis plusieurs années, on se retrouve avec chaque année entre, allez, on va dire 20 à 30% en moyenne nationale en France, mais aussi aux États-Unis, des pertes dans les colonies d'élevage. C'est énorme. Imaginez, demain, je ne suis pas apiculteur, mais je suis éleveur de bovins. Vous connaissez, vous, un éleveur de vaches qui va supporter chaque année de perdre entre un quart et un tiers de son cheptel? Certainement pas. Il serait demain dans la rue et c'est Sarkozy en personne qui viendrait négocier avec lui. Donc, ce n'est pas ce qui se passe au niveau de l'apiculture, parce que jusqu'à présent, l'apiculture était considérée comme un secteur vachement marginal. Producteur de miel, ça fait 0,00, etc., du chiffre d'affaires de l'agriculture mondiale. Mais depuis que les laboratoires de Montpellier et Avignon ont sorti ce fameux chiffre mondial de la contribution des pollinisateurs à l'agriculture de 153 milliards d'euros par an, qui représente un peu plus de 9% du chiffre d'affaires mondial de l'agriculture, ah ben tout d'un coup, les apiculteurs sont beaucoup moins marginaux et commencent à intéresser tout le monde. Et ça, je crois que c'est bénéfique parce que le rapport de force, si j'ose dire, au sein du monde agricole est en train d'évoluer. Et je crois que ce dialogue absolument indispensable, moi pour lequel je plaide, hein, vraiment entre cette filière d'élevage très particulière qui est l'apiculture et les cultivateurs, dialogue pour améliorer les conditions de l'environnement, pour améliorer les moments de traitement, les problèmes de fauche dans les champs, leur moment de fauche et puis l'ampleur de ces fauches, et puis qu'est-ce qu'on met dans les friches apicoles, etc., agricoles, etc. Tous ces débats qui doivent être menés entre ces professions-là, je pense que le fait que l'importance économique des abeilles est mieux reconnue fait que ce dialogue devrait pouvoir se passer enfin d'une meilleure manière. Et je pense que c'est au pouvoir public vraiment de garantir la qualité de ce dialogue entre ces deux professions. Et si je reviens à votre question qui était sur les causes, vous avez raison. Je crois qu'Apimondia, ben voilà, c'est vraiment l'enterrement du facteur unique, hein, du tueur unique. Il n'y a pas un tueur, il y a une multitude de facteurs à risque. Et le vrai débat, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, et qui est compliqué, mais pourtant qui est la réalité, c'est les combinaisons de facteurs. Si j'essaie d'être un petit peu, de simplifier un peu les choses pour les auditeurs, on dirait qu'il y a nettement un couple infernal. C'est un acarien qui s'appelle Varroa destructor, qui nous vient d'Asie. Le pou de l'abeille, on va dire ça, que les Anglais traitent de mythe, mais enfin bon, non, c'est un problème d'anglais, ça, enfin, de traduction. Mais c'est un parasite, c'est un acarien, hein, qui vient en fait de Apis serrana. Si je vous dis ça, qui est l'abeille asiatique, c'est que, en fait, qu'est-ce que c'est ce problème de l'acarien qui a envahi absolument tous les ruchers d'Europe, d'Amérique, et qui détruit des colonies entières, qui les affaiblit considérablement, qui en plus, non seulement les affaiblit parce qu'elle pompe le sang des larves et des jeunes abeilles, mais en plus elle transmet des virus, vous voyez, donc c'est vraiment le parasite absolument détestable. Et en plus, on lui a mis en face un ensemble de produits chimiques, et il a développé, cet acarien, des résistances contre pas mal de ces produits chimiques. Et si vous voulez, le fait, en fait, que ça vienne d'Apis serrana, c'est-à-dire l'abeille asiatique qui est passée sur l'abeille européenne au moment où on a apporté l'abeille européenne en Asie parce qu'elle était plus productive, elle dit deux choses pour moi. Elle dit que, ben voilà, on est sur des logiques de productivité, même à l'échelle de l'apiculture, ce petit secteur, ben, qui s'avère être un vrai problème à l'arrivée pour l'ensemble des filières apicoles du monde, autant en Asie qu'en Europe, en Asie, parce qu'aujourd'hui, Apis serrana, vu qu'on a introduit Mellifera de façon aussi importante, elle commence à être en voie de disparition, ce qui est quand même un comble. Et chez nous, on est menacé avec Apis mellifera à cause de maladies comme Varroa destructor, ce parasite qui nous vient d'Asie. Vous voyez, c'est vraiment des inconséquences, à mon avis, qu'on pourrait résumer par les échanges mondiaux. Mais là, il y a un vrai souci. C'est-à-dire qu'il y a un vrai lien sur le marché mondial avec des échanges de matériel biologique comme l'abeille. On en fait venir. Elle voyage dans le monde entier à Apis mellifera. Maintenant, on la fait venir de Chine, on la fait venir d'Australie, par exemple, pour travailler sur des vergers d'amandiers en Californie. Parce que, tout simplement, il y a de tels effondrements des colonies aux États-Unis. Et on a tellement besoin, en 15 jours, de polliniser des milliers, voire des millions d'hectares de vergers, en même temps, au même moment, qu'il n'y a plus assez d'abeilles. Donc on en fait venir, par exemple, d'Australie. Et quand vous en faites venir d'Australie, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites également venir les maladies, les virus, les parasites de ces pays-là. Et donc, après, toutes ces abeilles qui sont réunies en Californie se redispatchent dans tout le reste des États-Unis avec leurs parasites, les virus, dont certains viennent de l'étranger, et ils vont rencontrer des abeilles qui ne connaissent pas ces virus et ces parasites, et qui vont être totalement susceptibles par rapport à eux, et qui donc vont s'effondrer. Et c'est un genre
le cercle
absolument
vicieux.
C'est un cercle totalement vicieux.
Donc pas qu'un paramètre, il y a le varroa, il y a d'autres encore.
Oui, il y a le varroa qui est donc vraiment un problème très très sérieux, et il y a les pesticides, on en a parlé. Moi, au début de l'enquête, j'étais assez sceptique et assez perplexe par rapport à ce dossier que j'avais suivi quand j'étais journaliste au Monde et pour Science et Vie. Donc je l'ai suivi pendant à peu près 5-10 ans, au moment de l'affaire Gauchot, dont tout le monde que tout le monde garde en mémoire. Et je trouvais quand même que les apiculteurs poussaient un peu la roue, et que c'était un petit peu exagéré, qu'on avait un manque de données, etc. Bon, j'ai replongé dans ce dossier des pesticides, j'ai regardé les données scientifiques. Et puis, je dirais que j'ai fait un peu comme certains scientifiques américains, c'est-à-dire que je suis passé du grand scepticisme à pas de, forcément de grandes convictions, mais en tout cas, en me disant que oui, il y avait une famille de pesticides qui étaient les fameux néonicotinoïdes, ou des pesticides dits systémiques, c'est-à-dire d'enrobage de semences, et qui étaient dans le sol, qui étaient capables de remonter via la sève, en fait, dans les parties florales qui sont visitées par les abeilles, et qui pouvaient intoxiquer. Mais alors, ce qui est intéressant à comprendre, si vous voulez, c'est que très certainement, c'est pas, elles ne vont pas tuer forcément l'abeille. En fait, elles vont sans doute perturber son orientation, perturber ses capacités d'apprentissage, perturber ses capacités de repérage des sources de nourriture, etc. Voire même de synthèse de protéines, de choses comme ça. Et c'est ce processus-là, peut-être des pesticides, sur des choses encore qu'il faut vérifier, par exemple à Apimondia, et puis bon, je le raconte déjà dans le livre parce que je m'étais déjà entretenu avec ce chercheur, mais il y a un chercheur d'Avignon qui est Luc Belzins, qui a des résultats extrêmement étonnants, où il y a de très 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 faibles doses qui ont des effets encore plus perturbants sur les abeilles que des doses plus importantes. Vous voyez, on est sur des choses très bizarres, il y a des processus biologiques liés à des molécules chimiques qu'on n'arrive pas bien à expliquer. Donc moi, j'ai pris le parti du principe de précaution après cette enquête. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit, non, le pesticide est le tueur numéro un, c'est vraiment pas vrai. Et je ne me suis pas dit non plus, ce n'est pas un problème, parce que ce n'est pas non plus la réalité. On est dans cet entre-deux très ambigu, très inquiétant, hein, parce qu'on n'a pas de réponse claire, mais où il semble que, si vous voulez, le jeu entre, par exemple, parasites et certains pesticides vont avoir vraiment un effet catastrophique sur les colonies. Et on pourrait multiplier ces couples infernaux. Et garder peut-être à l'idée une chose et une seule, c'est qu'il n'y a pas un tueur unique, il n'y a pas en fait une forme de mortalité unique dans le monde. Il y a des formes extrêmement variables. Tout le monde a parlé du CCD américain, et comme si ça devenait le sida des abeilles dans le monde entier. CCD, ça veut dire Colony Collapse Disorder, c'est-à-dire effondrement des colonies. Syndrome d'effondrement des colonies. Le syndrome d'effondrement des colonies, ce fameux CCD, c'est une des formes du dépérissement qu'on connaît dans le monde. Mais il y en a bien d'autres de formes. Donc, il n'y a pas une cause unique, il n'y a pas une forme unique de dépérissement. Et je dirais, s'il y a même d'une région à l'autre, d'une saison à l'autre, il y a une grande variabilité. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup, à mon avis, de travail à faire, d'organisation de ces facteurs, de comprendre leurs combinaisons. Et je crois que les mois qui viennent, les années qui viennent, c'est ce travail qui va être mené, et qui commence déjà à être mené dans pas mal d'équipes, tant en France qu'aux États-Unis, hein, sur on est en train de tester des facteurs en combinaison. Par exemple, on avait des tout débuts de résultats qui étaient donnés en Avignon entre un micro-champignon, Nosema serranae, et Gaucho, hein, l'imidaclopride, bon, qui est ces fameux pesticides systémiques. Et là, on voit qu'il y a des phénomènes que les chercheurs appellent de potentialisation, c'est-à-dire vraiment des phénomènes pas simplement additifs, hein, ce n'est pas deux problèmes qui s'additionnent, mais c'est deux problèmes voilà, qui vont se multiplier. Et je recueille dans le livre non seulement cette expérience entre ces deux problèmes qui nous viennent donc d'un laboratoire d'Avignon, mais également la même chose aux États-Unis. D'ailleurs, toujours avec le même micro-champignon et avec différents pesticides, on a exactement les mêmes résultats. Je crois vraiment que dans les mois et les années qui viennent, on va avoir de très grosses surprises sur ces facteurs de combinaison. Ce qui, évidemment, pour les apiculteurs, n'est pas forcément une très bonne nouvelle, parce que moi, je comprends parfaitement que les apiculteurs, ils voulaient un tueur, parce qu'ils voulaient un médicament, en gros, pour aller vite. Eh bien, voilà, on ressort de 18 mois d'enquête, je ressors de 18 mois d'enquête, sans pouvoir le leur fournir. Et évidemment, à travers moi, c'est des chercheurs que j'ai interrogés, qui n'ont pas la solution. Et les apiculteurs, ben, ils l'ont compris. Hein, je pense qu'ils font un peu grise mine, parce que ça ne va pas être simple pour eux de gérer ça. Cela étant, on n'est pas sans solution, parce que si vous voulez, les solutions, je dirais presque qu'on les connaissait avant de mener l'enquête, mais on a confirmation, c'est que si on n'améliore pas l'environnement de l'abeille, c'est-à-dire que par exemple, si on ne réduit pas les épandages de pesticides d'un côté, quel que soit le mode de traitement, que ce soit enrobage de semences ou spray aérien ou pulvérisation, si on n'améliore pas dans certaines régions de monoculture les sources de nourriture de l'abeille en réintroduisant des haies, des bosquets, en remettant des friches agricoles qui peuvent être fleuries, en évitant les fauches intempestives, pour des raisons, j'allais dire, presque culturelles, parce qu'on aime bien que ce soit propre autour des chambres. Si on n'arrête pas ça, si vraiment on n'améliore pas les conditions de l'environnement, à mon avis, on ne s'en sortira pas. Je dirais aussi, la profession, elle a du travail à faire et à balayer devant sa porte. Ça passe, à mon avis, par réfléchir très sérieusement sur les problèmes d'importation d'abeilles qui nous viennent de partout. Il y a vraiment un problème de mondialisation et d'échange, là. Et donc, ça passe par aider la profession à produire davantage de rennes, à produire davantage d'abeilles dans ses propres frontières. Non pas pour fermer, je ne suis pas un adepte, moi, d'être des forteresses, et voilà. Mais simplement parce que... il faut être capable d'être aussi de respecter nos écotypes d'abeilles pour respecter les biodiversités génétiques qui existent.
Par rapport à leur adaptabilité.
Absolument, pour pouvoir avoir des écotypes qui soient mieux adaptés à des climats, à des ressources nutritionnelles, et aussi pour éviter la diffusion de maladies du monde entier dans le monde entier, quoi. Voilà, ça c'est des urgences par exemple. Vous voyez, il y a quand même des solutions.
Donc en fait, il faut revoir et l'agriculture et l'apiculture en pensant que tout ça, c'est un écosystème qu'il faut respecter, et avec ses échelles de temps et ses échelles d'espace. Quoi.
Absolument, absolument, c'est tout à fait ça. On peut même citer une troisième voie, à mon avis, de solution. On a pas mal accusé, certains, je veux dire, ont accusé les apiculteurs de traiter fort mal le varroa dans leur ruche. C'est pas faux. C'est vrai que parfois, ils traitent mal, parfois c'est très bien fait, hein. Il y a de tout. Il y a du bidouillage, comme il y a des traitements très propres, qui d'ailleurs, même traitements très propres, ne sont pas forcément efficaces. Je vous disais qu'il y avait des problèmes de résistance. Bon, il faut les aider, les apiculteurs. Et il ne faut pas les aider simplement en pondant de nouvelles molécules chimiques de synthèse qui vont avoir le même phénomène à terme, parce qu'il va y avoir des phénomènes de résistance, voire de toxicité. On s'interroge très sérieusement sur un ensemble de produits homologués, hein, qui s'accumulent dans les cires des ruches. Mais il faut les aider par d'autres voies. Par exemple, je vous cite trois voies qui sont aujourd'hui tentées dans le monde, sur lesquelles on est en pleine recherche. Il y a une voie pour améliorer les traitements biologiques, donc du thymol en particulier, sur des modes de largage au sein des ruches qui sont un peu différents et plus efficaces. Il y a également une voie de lutte biologique contre cet acarien. Par exemple, à Montpellier, il y a un groupement de techniciens apicoles qui est l'ADAPRO-LR, qui travaille en liaison avec un laboratoire américain qui est basé à Baillarguet, à Montpellier, pour lutter contre cet acarien en lui mettant en face en fait un champignon du genre Bovaria. Bon, il y a d'autres équipes dans le monde qui travaillent exactement sur le même champignon. Donc
des formes de ruches aussi.
Des formes de ruches, absolument. Et enfin, je dirais, troisième grande voie, c'est essayer de trouver des génotypes d'abeilles qui soient mieux résistants à cet acarien. Vous voyez, la panoplie des solutions, elle ne manque pas en réalité. Mais il faut pour ça, il y a vraiment une aide qu'il faut apporter à la profession. On ne peut pas simplement soit la montrer du doigt, soit lui dire « vous êtes formidables, les éleveurs d'abeilles, parce que vous êtes les gardiens de la biodiversité ». Ben oui, ben ok, ben maintenant il faut les aider, quoi, hein, à faire le boulot, quoi.
Alors du coup, avec cette grosse crise aussi, bah, vous qui êtes journaliste, vous avez dû un peu aussi voir comment les gens se renvoyaient la balle, comment il y avait une amplification du problème, comment les journalistes augmentaient les choses, les scientifiques suivaient peut-être le mouvement, les apiculteurs profitaient de la vague. Comment est-ce que vous avez vu un peu ce début de crise à propos du déclin des abeilles ?
Bah écoutez, moi en tant que journaliste, je l'ai assez mal vécu. Quand j'étais au Monde, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. J'avais l'impression de compter les points, quoi. De resservir la balle au centre pour que la guerre des tranchées continue entre apiculteurs, agents sanitaires, chercheurs, enfin bon. Je trouvais que cette situation confinait même à la manipulation à certains moments, et que malheureusement, trop de mes confrères, je le dis, jouaient pas le jeu de leur métier, quoi, qui est vraiment de mener de l'enquête, et puis qui n'est pas de prendre parti, qui est plutôt d'essayer d'éclairer, de donner des outils aux auditeurs ou aux lecteurs, et qu'on était plus dans des systèmes où on prenait parti. Bon, moi j'ai essayé de me garder de tout ça, c'est pas simple, hein, parce que franchement, d'abord on est dans des rapports humains, donc c'est jamais simple, et puis parce que les choses sont pas limpides, donc des fois on court après la dernière thèse qui nous paraît la plus évidente. Donc chaque fois il faut reprendre du recul, et ce jeu des acteurs, en France en particulier où on est, il n'a pas été... Bon, il a été à la fois préjudiciable et positif, je dirais. C'est-à-dire un peu cette focalisation extrême qu'on a eue sur deux pesticides dans toute cette crise des abeilles depuis maintenant plus de 15 ans. Positif parce que incontestablement, on a tiré une sonnette d'alarme au niveau du grand public et donc du politique. Et ça, je pense que c'est bien. Positif parce que, de toute façon, à l'arrivée, ces pesticides posent un problème. Donc il faut absolument, à mon avis, mener des recherches sur ce type de pesticides et pour l'instant, les tenir hors des champs parce qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire et que je pense qu'il y a le principe de précaution qu'il faut adopter. Et positif aussi parce que la recherche française s'est illustrée dans des capacités d'investigation absolument remarquables qui sont aujourd'hui reprises dans le monde. Là où je me souviens au début de mon enquête aux États-Unis, on me disait « Ah ouais, non mais les pesticides, c'est encore so Frenchies, c'est vraiment un problème des Français ». Aujourd'hui, on a nos petits camarades américains qui commencent à reprendre les publications françaises des chercheurs en écotoxicologie et qui s'en inspirent. Donc là, incontestablement positif. Mais il y a un revers. Il y a aussi un négatif, c'est-à-dire que je pense que cette focalisation extrême sur les pesticides, eh bien, elle n'a pas permis de mener des recherches sur d'autres aspects qui sont pourtant importants. Je pense à Varroa Destructor et notamment les moyens de s'en débarrasser. Et je pense au virus, et bon, aujourd'hui au micro-champignon, mais ça c'est plus récent. Je pense au virus en particulier, où il y a eu certaines demandes de financement qui n'ont pas pu aboutir. Parce qu'il y a cette particularité, j'allais dire française, c'est que dans le comité de planification des recherches sur l'abeille, il y avait des organisations apicoles qui siégeaient pour distribuer les crédits. Et donc, si en gros, on n'allait pas dans le sens de mener des recherches sur les pesticides, on n'avait pas forcément de chance d'avoir des financements. Donc, vous voyez, ça, ce n'est pas une situation très saine, à mon avis, qui ne garantit pas une recherche vraiment indépendante. Pas plus des boîtes d'agrochimie que de la profession. Et je crois que la recherche doit travailler en toute indépendance. Et c'est vrai dans ce secteur, comme dans d'autres d'ailleurs. Et notamment, voilà, donc il y a eu un effet qui n'était pas forcément positif dans qui nous a fait prendre un peu de retard, je pense, dans certaines autres recherches. Bon, de toute façon, la recherche française en matière d'abeilles, elle est limitée. Hein, elle est limitée en nombre, elle est limitée en crédit. Elle est limitée aussi parce qu'on a un tissu de naturalistes amateurs en France qui est trop faible. Si je le compare par exemple à des pays comme l'Allemagne ou comme la Belgique ou comme l'Angleterre évidemment, ou les Pays-Bas ou même l'Espagne, vraiment en France on souffre d'un manque de naturalistes amateurs, de réseaux. Et il y a cette liaison entre, je dirais, chercheurs professionnels et réseau des naturalistes associatifs qui me semble absolument indispensable pour sortir aussi de cette crise de l'abeille, parce qu'il va falloir faire des observatoires sur le terrain. Et il y a d'ailleurs une initiative qui est en train de se mener entre le Muséum d'Histoire Naturelle et le monde associatif. Et je vous indique que le 22 et 23 octobre à Montpellier, il y a un grand colloque qui va se tenir sur la science citoyenne et qui va être extrêmement intéressant justement pour relier le monde associatif au monde de la science professionnelle et pour essayer d'avancer ensemble sur l'abeille comme sur d'autres ordres et groupes d'insectes et d'oiseaux et d'animaux et de plantes.
Ah, ça c'est le bruit du générique, ça veut dire qu'il est temps de vous laisser. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les émissions Wakadi sur Radio Clapas le lundi de 10h à 11h et le vendredi de 22h à 23h ainsi que sur notre site internet wakadi.free.fr. Wakadi, ça s'écrit O-A-Q-A-D-I. Ça veut dire « on a quelque chose à dire ». Merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.
Come on.